Les jardinières.
Ah, ça pique ce matin, c'est une bonne raison pour rester tranquillement au chaud, écouter la radio et prendre les bons conseils des jardinières. Bon réveil et bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Les bons conseils du jour seront ceux d'Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste. Merci d'être avec nous ce matin.
Et les jardinières, c'est votre émission jardin du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Olivier, les températures jouent un petit peu au yo-yo. Ces temps, on ajoute à ça du vent, de la pluie, parfois de la neige, même un petit peu de soleil. Du coup, c'est compliqué de savoir quoi faire en extérieur. Est-ce que vous avez quelques pistes à nous offrir ?
Alors oui, tout à fait, parce qu'on arrive dans une période de début d'année où c'est qu'il y a quand même pas mal de choses, où c'est qu'on peut s'atteler soit au jardin ou soit même à la maison. Je vais commencer plutôt par le jardin, que tu l'as dit, il y a des périodes où on a un peu de soleil, donc il faut penser maintenant à amener dans son jardin potager tout ce qui est les matières organiques, donc ce qui va nourrir le sol, c'est vraiment un des derniers moments à le faire, il y en a qui l'ont déjà fait à l'automne, mais pour ceux que c'est pas fait, la matière organique, donc soit par rapport à du compost, soit par rapport à un fumier bien décomposé, c'est vraiment la période maintenant à apporter ça dans son jardin, quel est le temps d'être un peu lavé par la pluie, par la neige qui peut encore tomber, pour que cette matière organique puisse s'installer dans le sol, et puis qu'après les plantes qu'on y mettra, donc les futurs plantons qu'on va planter, puissent y trouver de la nourriture pour pouvoir grandir, croître. Alors ça, c'est un des premiers travaux qu'il faudrait pouvoir faire au plus vite. Et nous, par exemple, en profession, c'est une période idéale pour faire des tailles d'arbres fruitiers. C'est vraiment encore le bon moment, en sachant que si vous avez des cerisiers, je dirais presque qu'il faudrait les faire encore d'ici les 15 jours, 3 semaines à venir, parce que si on va avoir les cerisiers, on remarque que les bourgeons sont déjà venus bien remplis, bien gonflés. Donc c'est aussi une période de taille qui est très belle, parce que le sol est pas trop gelé, il fait pas trop froid les après-midi, donc on peut travailler facilement. Et puis après, il y a encore des petits travaux qu'on peut faire, mais ça c'est à l'intérieur, si on a des matinées qui sont très froides pour son jardin. Il faut penser à préparer ses premiers semis. Donc on est vraiment dans une période où ce qu'on va planter les premières graines qui prennent beaucoup beaucoup de temps. Et puis là, ben, je pense particulièrement aux poireaux. C'est vraiment une période de semer ses premiers poireaux si on veut les repiquer tôt pour en avoir tôt à l'automne dans son jardin.
Merci beaucoup Olivier, vous êtes notre invité jusqu'à 8h et vous prendrez le temps aussi de répondre aux questions jardinage de nos auditeurs, des questions que l'on attend par téléphone au 0900 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos de plantes via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Ou alors vous pouvez envoyer votre question par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom. Vous nous envoyez ce message au 939.
Dans quelques minutes, nous allons vous parler des conifères caduques. Qu'est-ce donc ? Eh bien, la réponse, juste après une pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Dans cette première partie d'émission, nous allons parler d'arbres en compagnie d'Olivier Ribaud, plus précisément de conifères et encore plus précisément de conifères caduques. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet et pour que tout le monde sache de quoi on parle, est-ce que vous pouvez commencer, Olivier, par nous dire quels arbres font partie de la grande famille des conifères ?
Alors la grande famille des conifères qu'on connaît tous, bien sûr, c'est toutes les familles des pins, les familles des sapins. Donc c'est quand même les conifères, c'est un résineux, donc c'est une plante qui peuple énormément nos montagnes et puis nos forêts ici dans la Suisse. Donc c'est quand même un arbre qui est connu. Après, on sait aussi que on trouve beaucoup de résineux dans les jardins, dans les parcs privés. Donc après, on va trouver souvent des conifères qui auront été peut-être greffés. Ça veut dire qu'on on aura repris une variété naine ou une variété qui a une croissance un peu spéciale ou bien une couleur un peu spéciale de conifères. On peut trouver des pins, vraiment le pinus, on peut le trouver sous beaucoup de formes différentes. Donc après, ben, c'est des conifères qu'on trouve un peu dans tous les jardins.
Et puis parmi ces conifères, il y a deux grandes catégories, les conifères persistants et les conifères caduques. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ?
Alors oui, là, il y a une grande différence. Et, la différence des conifères, c'est que ben, la grande partie, comme tu l'as dit, c'est des conifères qui vont rester verts. Leurs aiguilles vont se régénérer donc, au fur et à mesure des années. Donc un conifère va quand même perdre chaque automne une partie d'aiguilles qui vont être remplacées au printemps. Mais par contre, on a un groupe de 4 conifères qui sont des conifères qui perdent complètement leurs aiguilles pour l'hiver.
Et justement, on en parlera plus précisément dans la suite des jardinières. Olivier, est-ce qu'il y a une raison pour que certains conifères, ces 4 grands que vous citerez plus tard, perdent leurs aiguilles, ou alors c'est un mystère de la nature ?
Alors, on peut appeler ça un mystère de la nature parce qu'il y a quand même eu une période où c'est qu'on ne peut plus trop revenir en arrière. C'est des conifères qu'on, par rapport aux évolutions de la création de la Terre et du monde, ils ont eu une période où c'est qu'il y a eu des changements de climat et autres. Et puis, ces conifères se sont adaptés, justement, ces 4 conifères qui n'ont plus d'aiguilles pour l'hiver se sont adaptés à une certaine période. Et puis, maintenant, ils sont restés sur cet état-là et on va trouver certains conifères qui auront résisté à d'autres événements naturels ou de l'humain qui vont rester toujours avec une partie de leur période de vie sans les aiguilles.
Et Olivier, maintenant qu'on a bien fait durer le suspense, est-ce que vous pouvez nous les citer, ces conifères caducs ? Vous avez dit qu'il n'y en a que 4 ?
Oui, alors il y en a que 4. Je vais commencer par les 2 qui sont les plus connus. Donc on a le mélèze qui est souvent vu dans les montagnes et puis dans nos grandes régions. Donc le mélèze, c'est vraiment l'arbre le plus connu dans ceux qui perdent leurs aiguilles. Après on a le ginkgo biloba. Donc on va le mettre de toute façon toujours dans un conifère parce qu'il fait partie de la famille des conifères. C'est un petit peu une particularité aussi parce que ben on croit qu'il a des feuilles, mais en fait sa feuille c'est un assemblage des aiguilles qui est resté collé justement dans sa formation en début. Puis après, il y a 2 conifères qui sont très très peu connus. Donc on a le cyprès chauve, on appelle ça dans notre jargon français normal, mais ça s'appelle le taxodium. Et puis après, vous avez le métasequoia. Alors lui, il est encore moins connu. On en trouve un petit peu sur la région lémanique, Genève ou comme ça, dans où c'est que c'est des régions au bord de lac parce qu'il aime beaucoup l'humidité. Mais le taxodium, par contre, c'est le cyprès chauve, comme on le dit souvent chez nous. C'est un grand conifère qui vient aussi haut qu'un sapin, mais qu'on trouve très facilement dans nos régions. On en a de beaux et grands magnifiques à Porrentruy, que souvent on passe à côté, on s'en rend même pas compte, mais tous les automnes, ils sont d'une couleur magnifique.
Et grâce à vous, on va apprendre à mieux les connaître. Dans un instant, Olivier, vous allez nous parler justement de ces 4 variétés plus en détail. Ça sera juste après une pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie d'Olivier Ribaud, nous parlons de conifères caducs. Alors, il nous a expliqué la différence entre les caducs et les persistants. On va s'intéresser maintenant aux 4 variétés de conifères caducs. On va commencer, Olivier, par parler du mélèze, celui qu'on trouve dans nos régions.
Oui, alors tout à fait, on le trouve vraiment énormément dans nos régions, dans les forêts on le trouve. C'est un arbre que les forestiers, bûcherons, ceux qui s'occupent des forêts chez nous, replantent beaucoup dans nos forêts, parce que c'est un arbre qui est quand même utilisé pour son bois, il est quand même utilisé assez couramment justement pour être exploité. Donc c'est un arbre qu'on trouve facilement dans des cultures, dans des plantations. Mais on le trouve beaucoup aussi bien dans les régions des Alpes, où c'est que ben, on va tous, je pense, une fois ou l'autre, soit se promener, soit skier, ou faire partie des domaines skiables. Alors ça, c'est toujours un petit peu rigolo, parce qu'on voit des pins partout, et puis ben, il y a ces grands arbres qui sont tout nus. Et ce sont ces mélèzes. C'est un arbre qui casse assez facilement avec le poids de la neige. Donc dans les Alpes, on trouve souvent des arbres qui ont des formes très particulières. Ils ont repoussé, ils ont fait des arrondis, ils se sont vrillés. Donc c'est un arbre qui s'adapte facilement à la situation où il se trouve.
Et puis Olivier, second conifère caduc, le cyprès chauve. Est-ce qu'on dit chauve parce qu'il perd ses aiguilles ?
Alors oui, il a été surnommé comme ça parce que bien sûr, il perd ses aiguilles. Si on prend l'exemple d'un cyprès du sud, eh bien, lui garde ses aiguilles. C'est un beau conifère qui va faire une forme pyramidale, un petit peu forme tuyale, cyprès du sud. Mais si on prend le cyprès chauve, alors il est au contraire complètement différent dans sa croissance. Il ressemble énormément à nos sapins de nos forêts, donc l'épicéa ou le sapin blanc. Donc c'est vraiment un arbre. Il va venir, ce qu'on a à Porrentruy, les plus anciens, anciens que moi je connais, parce que j'aime bien savoir où il y a ce genre de plantes qui est un peu rare, eh bien, ils se trouvent face à la gare à Porrentruy. Je pense qu'ils font une bonne trentaine de mètres de haut. Donc, chaque automne, eh bien, on les voit changer de couleur. Tout ce petit aiguillage très fin qu'ils portent pendant la saison d'été, qui est très vert, eh bien, il est venu orange à l'automne. Donc, ça fait des espèces de flammes orange. Quand le soleil donne dedans, ils sont vraiment d'une couleur magnifique. Et puis après, ça tombe assez rapidement en une fois. Donc, on les reconnaît aussi assez facilement parce qu'à un moment donné, si on passe à pied en dessous, on a 8 à 10 cm d'aiguilles qui sont au sol et ça refait de nouveau un tapis d'une très belle couleur.
Et qui fait le plaisir des enfants, certainement. On va parler d'une espèce un petit peu moins connue, le Metasequoia.
Oui, alors le Metasequoia, c'est un conifère qu'on voit moins parce que c'est un conifère qui a besoin de beaucoup d'humidité pour pousser. Si on regarde un petit peu quelques photos sur des réseaux, on va les voir souvent dans des plans d'eau. Donc c'est un arbre qui aime l'humidité et c'est un arbre qui est originaire de Chine en plus. Donc c'est un arbre qui a été réimporté chez nous dans les années 40-50 et justement par des botanistes. On en trouve les plus anciens, ils sont sur le jardin botanique de Genève, je pense. C'est qu'il y en a encore quelques-uns qui sont de cette période-là. Donc c'est un arbre qui fait aussi un petit aiguillage très fin, très doux. Il ressemble un petit peu au mimosa qu'on va voir arriver prochainement pour les périodes de carnaval. Son feuillage, il est quasiment la même chose que les aiguilles du mimosa. C'est très agréable à toucher. Et puis il fait aussi des couleurs d'automne qui sont très magnifiques. Donc c'est un arbre qui est vert en été. À l'automne, il vient jaune et après il vient orange, mais vraiment un orange très très soutenu. Donc des fois, c'est un petit peu des périodes où c'est intéressant d'aller visiter des jardins botaniques, où c'est qu'on peut y trouver ces plantes assez rares, mais qui sont très belles.
Olivier, ce que je vous propose, c'est qu'on présente la quatrième sorte justement de ces conifères caducs dans quelques minutes. Ce sera le Ginkgo biloba, juste après une pause musicale, météo et inforoute.
Les jardinières.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant pour Les Jardinières. Nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy.
Et Olivier est prêt à répondre à vos questions jardinage et toujours trois possibilités pour nous joindre. La première, c'est par téléphone au 0900 70 20 20 et la chance de parler en direct avec Olivier. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo en passant par le formulaire disponible sur notre site internet ou alors envoyez-nous un SMS, vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question, de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Olivier, avant de répondre aux questions de nos auditeurs, on va parler encore un petit peu de ces conifères caducs. Il y a quatre grandes espèces d'arbres qui en font partie. Donc on rappelle, c'est ces conifères qui perdent leurs aiguilles pendant la saison froide, c'est juste ?
Voilà, c'est juste.
On a parlé du mélèze, du cyprès chauve, du Metasequoia. On voulait parler encore du Ginkgo biloba, qui en plus d'être un conifère caduc, est également un arbre sexué. Alors lui, il a tout pour plaire. Vous nous expliquez ce que ça veut dire ?
Alors exactement, c'est un arbre qui est particulier, c'est celui qui prendra peut-être le plus de temps à expliquer, mais c'est un arbre qui est connu par, je dirais, beaucoup de gens, vraiment tout le monde, par rapport à sa forme de feuilles, parce qu'on parlera ici qu'il a des feuilles, mais c'est dans le groupe des conifères, donc j'ai expliqué avant que c'est des aiguilles qui sont restées collées ensemble et puis qui a formé cette feuille. Il a la particularité d'avoir une couleur très verte en été, il a une superbe couleur en automne, il est jaune, donc c'est aussi pour ça qu'on l'appelle dans le jargon, l'arbre aux 40 écus d'or ou aux 40 écus. Donc c'est vraiment un arbre qui a plusieurs dénominations. C'est un arbre qui est utilisé énormément aussi par rapport à la pharmaceutique, par rapport à la recherche, par rapport, je dirais même jusqu'à à produire des alcools avec. Donc c'est un arbre qui est utilisé parce qu'il a vraiment beaucoup de vertus différentes. Donc là, après, à chacun savoir qu'est-ce qu'il peut en faire. Et puis après, par rapport à sa multiplication, donc c'est un arbre qui est asexué, c'est un arbre qui porte soit un sexe soit l'autre, et dans le commerce, donc on va trouver que des arbres qui ne feront pas de fruits, donc on va trouver les arbres mâles, c'est ça qu'on va planter dans les jardins. Pourquoi ? Parce que cet arbre, en automne, celui qui va faire les fruits, je vais appeler ça des fruits, mais en fait, ce n'est pas des fruits, c'est des ovules qu'il fait. Et puis cet arbre, ces ovules, elles ont une graine qui est à l'intérieur, qui est comestible. On peut manger cette ovule, donc elle peut être utilisée aussi dans certains plats et dans certaines recettes. Si on cherche un peu, on ira jusqu'à dire qu'il a des effets aphrodisiaques. Donc après, il y a des gens qui utilisent la plante vraiment sous différentes formes. Et puis pourquoi on plante souvent ou tout le temps, je dirais, la plante mâle qui ne donne pas de fruits? Eh bien, il y a une forte raison, c'est que ces fruits, quand ils viennent à maturation en automne, eh bien, ils dégagent une forte odeur de vomi. Donc c'est vraiment un arbre, quand il a les fruits, donc la plante femelle, c'est vraiment très très désagréable d'en avoir un dans son jardin autour de soi. Donc c'est pour ça qu'on n'en voit quasi pas, à part les connaisseurs savent où il y en a un, mais c'est quelque chose qui n'est pas agréable à avoir dans sa propriété.
Et puis Olivier, est-ce que ces arbres, ils ont besoin d'un soin particulier par rapport à des conifères persistants, notamment l'hiver, parce qu'ils n'ont plus de...
Non, alors tout à fait, c'est des arbres qui sont autant résistants, notamment le mélèze, on le voit, je l'ai expliqué, on le trouve beaucoup dans les montagnes, donc c'est un arbre qui est très résistant, je dirais il est plus résistant que les résineux, parce que justement, ils ont une diminution de sève dans le bois, donc ils vont résister au froid, aux températures hivernales, beaucoup plus qu'un épicéa ou qu'un sapin blanc, un sapin de forêt, donc c'est un arbre qui est encore plus résistant. Le Ginkgo biloba aussi, c'est un arbre qui est très résistant, j'irais même jusqu'à dire, pour ceux qui le connaissent un peu, c'est le seul arbre qui a résisté à la bombe nucléaire d'Hiroshima. Donc c'est le premier arbre qui est reparti, qui a remis vie sur ces endroits qui ont été affectés par ces choses particulières. Donc c'est un arbre aussi qui est très très résistant. Après, par contre, le sapin d'eau, que j'ai encore pas cité, mais qui est le Metasequoia, qui est originaire de Chine. Alors bien sûr, il est moins résistant parce qu'il a toujours été d'origine dans des régions plus clémentes, donc il est un petit peu plus délicat. Mais les trois autres sont très très résistants dans nos régions.
Olivier, vous êtes pépiniériste, vous êtes plutôt dans le sapin en général, hein. D'ailleurs on en avait parlé en fin d'année. Oui. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît chez ces conifères caduques ?
Je dirais que c'est un petit peu des exceptions. C'est ce qui plaît aussi aux collectionneurs qui cherchent des choses particulières. Quand on aime la nature, quand on aime les végétaux, bien sûr, on travaille avec les matières de masse, donc on travaille avec les quantités, on travaille avec les sapins, sapin de Noël, comme on en a parlé d'une émission particulière avant Noël. Mais ces quatre plantes qu'on a parlé aujourd'hui, quand tu m'as appelé cette semaine pour voir qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu, c'est quelque chose qui m'est venu parce que j'en avais un qui avait passé devant moi très peu de temps avant qu'on s'appelle. Donc c'est des arbres qui sont toujours super agréables à regarder parce que c'est vraiment des exceptions. Et si on les voit, c'est encore mieux parce qu'ils ont tous des particularités. Donc après, on regarde une forêt, on la regarde en ensemble, mais si on a l'occasion de chercher ces quatre plantes dans des parcs publics ou des jardins privés ou ça se trouve au bord de route à Porrentruy, je reprends cet exemple, mais il y a un Ginkgo biloba au Petit Parc qui est très connu, le Petit Parc. Et bien quand on le voit en automne, on ne peut pas ne pas le regarder parce qu'il est juste magnifique avec sa couleur jaune, or. Donc c'est des arbres d'exception qui ont tous une particularité, c'est ça qui fait leur charme.
Merci beaucoup Olivier pour la découverte de ces conifères caduques. Maintenant, on va pouvoir se promener justement et les reconnaître. Vous restez avec nous parce que dans quelques minutes, on va répondre aux questions de nos auditeurs.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Olivier Ribaud est notre invité ce matin. Il va prendre le temps de répondre à vos questions. Brian, on va peut-être rappeler comment poser ces questions.
Et oui, vous avez trois possibilités pour nous les poser. La première, c'est par téléphone au 0900 70 20 20 et la chance de parler en direct avec Olivier. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo, ça se passe par formulaire sur notre site internet, sous l'onglet émission questions jardinières. Et puis troisième possibilité, vous tapez jardin, un espace et votre question et votre nom par SMS et vous nous l'envoyez au 939.
On va commencer par ce message qu'on a reçu de Gabrielle de Moutier. Alors c'est pas une question, c'est des remerciements. Gabrielle, elle voulait nous remercier le et la jardinière parce qu'elle a eu plusieurs fois des réponses pour une plante. Pour l'instant, elle va bien et au printemps, on va changer de pot. Elle nous souhaite une belle journée. Olivier, vous avez d'ailleurs répondu à cette question la semaine passée pour lui conseiller justement de changer le pot.
Exactement, je me souviens de son pachyra, tout à fait.
Exactement, et du coup, voilà. La plante porte bien.
Je vois qu'il y a des personnes qui sont assidues, qui nous écoutent, c'est bien.
Et on est content d'avoir des retours positifs.
Voilà.
Merci Brian, on va passer à cette première question.
De Martine Desbois exactement, qui nous dit « Bonjour, nous aimerions mettre en place une prairie fleurie au printemps. Existe-t-il un mélange de graines déjà prêts et où les trouver ?»
Alors oui, tout à fait, on trouve beaucoup de mélanges de graines qui sont déjà prêts avec une quantité de plantes, donc de graines différentes avec des panels de couleurs différents. On trouve dans le commerce maintenant, si on veut une panel de fleurs prairies, plutôt dans le rose, plutôt dans les couleurs jaune-orange ou plutôt dans le violet, ça se trouve avec des mélanges de blanc toujours par dedans. On va trouver ça dans le commerce très facilement. Je ne citerai pas de commerce particulier parce qu'on trouve ça de plus en plus facilement dans tous les commerces. Après, j'y conseillerais plus sur la manière de la mettre en place. Donc c'est des prairies fleuries qu'il faut mettre en place assez tôt au printemps. Bien sûr, elle a parlé, je crois, des franches montagnes, donc il faut quand même que la météo soit clémente, mais il faut les semer assez tôt, qu'elles aient le temps de pousser, parce que ça met du temps à pousser la première année, la plante qui va fleurir, pour l'avoir en fleurs fin d'été, début d'automne. Parce que si on met en place une prairie fleurie trop tard, la première année, elle ne fera pas de fleurs. Donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'on se dit, j'ai semé des fleurs et elles ne sont pas venues en fleurs. Donc c'est parce qu'il faut commencer très vite au printemps. Donc il faudrait peut-être aussi déjà commencer de préparer son sol soit l'automne d'avant pour avoir une terre et un endroit prêt à mettre sa prairie fleurie dès les premiers beaux jours avril, début mai, mais vraiment au plus tard. Moi, je dirais, si on peut le faire en avril, c'est mieux.
Et une fois que cette prairie fleurie est mise en place, ça se régénère chaque année ? On n'a plus rien à faire ?
Oui, alors justement, après, une fois qu'elle est mise en place, ça, c'est des prairies fleuries qui vont fleurir. Ils vont faire des fleurs, ils vont faire des graines, elles vont retomber sur le sol et elles vont regermer, elles vont repousser. Et puis ça va être fait, la petite plantule qui va repousser par la graine, ça va être déjà l'automne. C'est pour ça que l'année suivante, quand ce plantule poussera, il va fleurir déjà en mois de juin, juillet, pendant la saison d'été. Alors après, on aura une prairie fleurie qui sera plus précoce, on aura nos premières fleurs qui seront plus avancées. C'est pour ça qu'avant je disais semer très tôt, parce que à l'élément naturel, les plantes vont déjà germer à l'automne avant l'hiver. Et puis sa prairie sera mise en place beaucoup plus précoce.
Merci Olivier, ça donne envie d'être au printemps. On va parler gazon, pelouse, une question de Marcus Denot. L'année passée, le trèfle avait envahi notre pelouse. Est-ce vraiment un problème? Si oui, quoi faire?
Alors, tu vois, on entend vraiment, maintenant on est vraiment dans ce tournant, je profite de cette question pour parler, bien, soit on a des pelouses, des gazons, des endroits qu'on entretient très particulièrement pour justement par de trèfle, par de mauvaises herbes, et puis après à l'opposé on a des prairies fleuries où c'est qu'on essaye d'avoir un maximum de biodiversité, de petites fleurs, de petits animaux qui vont venir polliniser tout ça. Donc c'est vraiment, on est vraiment en train de, au jour d'aujourd'hui, d'avoir ces deux opposés dans ces alentours de maisons qui sont vraiment complètement différents. Alors oui, je sais aussi que j'entretiens du gazon, donc si on a du trèfle dans un gazon, si on veut garder un gazon, si on veut y mettre ses enfants couramment, pieds nus ou autre, les fleurs de trèfle, c'est pas intéressant parce qu'après, ben, il y a aussi les abeilles qui viennent avec, les guêpes et autres, donc on entretient son gazon, on va faire un passage avec un traitement sélectif pour enlever ces trèfles. Il y a des périodes aussi qu'il faut respecter pour faire ces passages de traitement. Donc oui, c'est un problème en soi, mais on peut éliminer du trèfle dans du gazon facilement. On voit très bien sur les terrains de sport, on n'en a pas, donc c'est que ça a été enlevé. Donc de nouveau dans le commerce, cette personne trouvera le nécessaire pour entretenir son gazon. Alors là, par contre, il faut attendre vraiment les beaux jours pour avoir des effets sur ces mauvais trèfles faciles à enlever.
Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve dans un instant, juste après une petite pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
7h presque 54 chez les jardinières, le temps file. Ce matin, nous avons parlé des conifères caduques en compagnie d'Olivier Ribaud, notre invité. Ce sujet, vous pourrez le réécouter en cours de matinée sur notre site, en podcast. Olivier, on va parler un peu du week-end qui s'annonce plutôt clément, hein, malgré des températures bien fraîches, frisquettes. Du coup, est-ce qu'on peut faire des tâches en extérieur ?
Alors oui, on en a parlé déjà pas mal en début d'émission. On peut faire pas mal de choses à son potager, comme je l'ai dit. On peut amener ses matières organiques. On peut continuer de penser vraiment à la taille, à la formation de ces arbres fruitiers. C'est vraiment une période maintenant qui est idéale pour aller entretenir ces jeunes arbres. C'est pas urgent, mais il faut quand même y penser pendant les deux prochains mois à tailler ces arbres. Commencer par ce qu'est tous les arbres qui partent en sève rapidement, donc le cerisier, ce qu'on a dit. Il y a aussi des arbres qu'on taille maintenant qui sont des arbres qu'on la sève qui montent très vite. Donc je vais prendre exemple les bouleaux ou les noyers. C'est des arbres que même si j'en ai taillé un là cette semaine, le bouleau, quand il y a eu un petit coup de soleil dessus, on voit où on a fait les coupes, la sève, elle sort déjà. Donc c'est des arbres qui, la sève remonte très très vite. Et après, il y a aussi pour ceux qui sont, on a parlé la semaine passée, j'ai eu la chance de venir vous voir deux semaines de suite.
C'est un plaisir.
On a eu la période où c'est qu'on multiplie ces arbres, on divise ces arbres, on va récupérer, on a parlé de marcottage la semaine passée, donc on va récupérer des arbres dans des autres jardins. Donc c'est vraiment la période de transplantation, de remise en terre des arbres à racines nues, donc on peut arracher, replanter. C'est vraiment la période pour faire ça, donc c'est vraiment idéal parce qu'en plus il fait froid, mais ça, le sol n'est pas gelé, donc c'est particulier. Des fois on a les sols qui sont très durs, donc on peut pas le faire, mais là ces périodes ici on peut le faire. Donc c'est au plus vite c'est fait, l'arbre partira beaucoup mieux.
Merci beaucoup Olivier pour votre visite et vos précieux conseils. On rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Bon week-end et à bientôt.
Alors merci beaucoup et puis j'avais juste une petite pensée pour ma maman qui a son anniversaire aujourd'hui.
Et joyeux anniversaire Janine de la part des jardiniers. On profite, hein, on est là. Que cette journée soit remplie de bons gâteaux au chocolat que Olivier vous apportera tout à l'heure. Voilà, comme ça vous n'avez pas le choix.
Okay.
Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher dans une microferme biologique dans le Jura. Et n'attendez pas samedi prochain pour nous glisser vos questions. Vous pouvez nous les envoyer à tout moment, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit par SMS en tapant jardin, un espace, suivi de votre question, de votre petit nom, et vous envoyez ce SMS au 939. Bon week-end, Brian.
Excellent week-end à vous.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.